Chapitre 24. Avant de s'enfoncer dans le bois, Richard s'était retourné pour regarder une dernière fois Callan. Dans sa robe blanche, ses longs cheveux défaits, elle était redevenue aussi belle que le jour de leur rencontre, l'incarnation de la grâce et de la beauté féminine. Déjà trop loin d'elle, il n'avait pas pu admirer vraiment ses yeux d'une nuance de vert qu'il n'avait jamais vue chez personne d'autre. Parfois, le regard de Callan suffisait à lui couper le souffle, à d'autres moments, il accélérait les battements de son cœur. Mais en réalité, c'était son esprit qui le fascinait. Il n'avait jamais rencontré une femme qui fût son égale sur ce plan-là. Conscient que le délai qui lui était imparti approchait de son terme, Richard s'était détourné à regret de son épouse. Sa vie dépendait d'un rendez-vous qu'il avait la ferme intention d'honorer. Ayant emprunté souvent le raccourci, il connaissait les endroits où il pouvait courir et ceux qui exigeaient une extrême prudence. Hélas, avec le peu de temps qui lui restait, il devrait prendre des risques. En chemin, il ne tourna pas une seule fois la tête pour tenter d'apercevoir la cabane. Chacune de ses pensées lui faisant l'effet d'être une pincée de sel jetée sur une plaie à vif, il courut à perdre haleine. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas à sa place dans la forêt. Un voyageur solitaire, impuissant et désespéré, partout où les branches nues se balançaient au vent, grinçant sinistrement comme pour se moquer de lui. À mesure qu'on montait vers le col, les sapins et les épicéas prenaient le dessus sur tous les autres arbres. Dans le dos de Richard, les bourrasques inamicales semblaient le pousser loin de l'endroit où il avait été le plus heureux de sa vie. Au pied des rares cèdres, des mousses brunâtres prospéraient, inoffensives en apparence, mais quand on courait, passer dessus risquait fort de se terminer par une chute spectaculaire. Arrivé devant un cours d'eau, Richard le traversa en sautant de pierre émergée en pierre émergée. En dévalant une pente un peu plus loin, cette petite rivière serpentait entre des rochers, produisant un grondement qui ponctuait sinistrement la dernière course d'homme libre de Richard. Dans la pénombre typique des forêts, il ne vit pas un entrelac de racines de cèdre ocre, se prit le pied dedans et s'étala face contre terre. Une ultime humiliation pour un réprouvé condamné au bannissement. Alors qu'il gisait sur un tapis de feuilles mortes déjà pourrissantes, Richard envisagea de ne pas se relever. Et s'il restait là, indifférent au vent glacial, en attendant que des araignées, des serpents et des loups viennent lui infliger mille morsures? Avec le temps, les feuilles et la terre recouvriraient sa dépouille veillée par des arbres suprêmement indifférents. À qui manquerait-il, à part une poignée de vrais amis? Et combien de gens se réjouiraient de sa disparition? Un messager dont personne ne voulait entendre les paroles, un chef venu trop tôt et vite déchu. Oui, pourquoi ne pas mourir ici? En finir avec le monde et partager avec Callan la seule véritable paix qui fut accordée aux hommes et aux femmes. Autour de lui, les arbres, vaguement méprisants, observaient l'humain insignifiant étendu sur le sol. Allait-il avoir le courage de se relever et d'affronter ce qui l'attendait? À cet instant, Richard lui-même ignorait la réponse. La mort était le chemin le plus facile, et il y avait des instants dans la vie d'un homme où le néant semblait moins angoissant que la réalité. Même Callan, si fort qu'il l'aima, exigeait de lui quelque chose qu'il ne pouvait pas donner, un mensonge. Elle aurait voulu l'entendre dire que ce qu'il tenait pour une incontournable vérité n'était qu'une sorte de lubie. Pour elle, il était disposé à faire n'importe quoi, sauf devenir volontairement aveugle et sourd. Au moins, elle avait eu assez foi en lui pour se laisser conduire loin du conflit et de l'ombre de la tyrannie qui s'étendait peu à peu sur les contrées du milieu. Elle ne le croyait pas, il l'avait compris, mais restait la seule personne qui le suivait en exerçant réellement son libre arbitre. Après une éternité, quelques secondes en réalité, Richard se releva, chassa la légère confusion toujours consécutive à une chute et reprit son chemin. Sachant ce qui l'attendait, sans nul doute la pire expérience de sa vie, il avait le droit de s'accorder quelques instants de faiblesse. Une compensation pour la force dont il aurait besoin. Des doutes pour rétablir l'équilibre chez un être d'habitude pétri de certitude. Et de la peur pour mieux nourrir le courage dont il allait devoir faire preuve. Au moment même où il s'était demandé s'il pourrait se relever, il savait que ce serait le cas. L'auto-apitoiement chez lui ne durait jamais longtemps. Pour Callan, il était prêt à tout, même à tomber entre les mains de Nietzsche, jusqu'à la fin de ses jours s'il le fallait. Sa détermination revenue, il chassa de son esprit les idées noires qui tentaient de l'envahir. La situation n'était pas si désespérée que ça. Après tout, n'avait-il pas triomphé de bien plus terribles épreuves? Un jour, il avait arraché Callan aux griffes de 5 sœurs de l'obscurité. Là, il n'y en avait qu'une, il la vaincrait aussi. À la seule idée d'être pendant quelque temps la marionnette dont Nietzsche tirerait les ficelles, il bouillait d'envie de l'étrangler de ses mains. Son désespoir oublié, la fureur revenait. Et il recommença à courir, slalomant entre des rochers et des arbres abattus pour gagner un peu de temps. Le sentier serpentait trop, l'éloignant de la trajectoire idéale pour un homme pressé, la ligne droite. Chaque saut et chaque petite escalade se convertissaient en précieuses secondes. Une branche cassée s'accrocha à la bandoulière de son sac qu'il portait à l'épaule et le lui arracha. Il tenta de le rattraper au vol, échoua et lâcha un chapelet de jurons quand il vit ses affaires s'éparpiller sur le sol. Fou de rage, il brisa la branche basse à coups de pied, comme si l'arbre avait délibérément tenté de le ralentir. Un peu calmé, il s'agenouilla et ramassa ses biens. Avec les pièces d'or et d'argent, il collecta une bonne quantité de mousse jaunâtre et un petit plan de pain fini dans le sac en même temps que le savon offert par Callan. D'étranges bagages, mais ce n'était pas le moment de trier. Avant de repartir, il positionna correctement le sac à dos sur ses épaules. Pour gagner du temps, il s'était économisé cette peine, avec un résultat inverse. Le sentier commença à grimper plus abruptement, certains passages confinant à l'escalade davantage qu'à l'ascension. Connaissant bien le terrain, Richard n'eut aucun mal à trouver les bonnes prises. Le front ruisselant de sueur, il s'écorcha pourtant plusieurs fois les phalanges sur des saillies rocheuses qu'il saisissait trop rapidement. Devant son œil mental, Nietzsche chevauchait bien trop vite pour qu'il la rattrape. Comment avait-il pu être assez idiot pour traînasser à la cabane? Se croyait-il donc capable de relever tous les défis? Peut-être, mais il avait tellement regretté de ne pas pouvoir serrer Callan un peu plus longtemps dans ses bras. Son cœur se serrait dès qu'il pensait à elle. Si injustement frappée alors qu'elle reprenait à peine goût à la vie. Oui, tout ça a été bien plus grave pour elle, même si elle était libre, et lui non. Ça restait plus difficile pour elle parce qu'elle devait se retenir d'agir. Devenu un esclave, il pouvait se contenter d'obéir, une situation parfois plus confortable qu'on aurait pu le penser. Jaillissant d'un bosquet, il s'engagea sur la piste plus large et plus praticable qui menait au sommet du col. Nietzsche n'était pas en vue. Angoissé, Richard regarda vers l'est où il redoutait de la voir en train de descendre vers le pied de la montagne. De son point d'observation, la forêt ressemblait à un immense tapis vert enchâssé entre deux formidables pics. Dans le lointain, des montagnes encore plus hautes, leurs flancs presque entièrement couverts de neige, brillaient faiblement sous la grisaille uniforme du ciel. Richard n'aperçut aucun cavalier. Hélas, la piste s'enfonçait dans un bois non loin de là où il était et ça ne voulait donc pas dire grand-chose. En fait, tout le flanc de la montagne était couvert d'arbres et le chemin ne traversait que de rares zones dégagées. Sondant le sol à la recherche d'empreintes, le sourcier n'en trouva pas et fut un peu soulagé. Apparemment, Nietzsche n'était pas encore passé par là. Dans la vallée, là d'où il venait, la cabane semblait minuscule tout au fond de la prairie. Trop loin pour apercevoir d'éventuelles silhouettes, Richard espéra que Callan lui obéirait et attendrait quelques jours. Si elle rejoignait l'armée afin de livrer un combat perdu d'avance, elle risquerait sa vie pour rien. Il comprenait qu'elle ait envie d'être auprès de son peuple et de défendre les contrées du milieu, mais elle pensait avoir une influence sur les événements alors que ce n'était pas le cas, pas pour l'instant, et peut-être pas de leur vivant. La vision dont il parlait n'était rien de plus que l'aptitude à regarder la réalité en face. Quand on brandissait son épée au ciel, cela n'empêchait pas le soleil de briller. Richard leva les yeux vers les nuages. Ses prévisions se confirmaient. Depuis 2 jours, il avait repéré les signes annonciateurs des premières neiges. À voir le ciel et avec l'odeur très particulière que charriait le vent, il ne s'était pas trompé. Échapper à Nietzsche et rejoindre Callan en quelques jours serait impossible, il le savait. Mais cette fiction servait un objectif caché. Dans ces hautes montagnes, dès que le temps tournait, les tempêtes de neige n'étaient pas loin. Si celle qui approchait tenait ses promesses, Callan et Kara seraient coincés dans la prairie jusqu'au printemps. Avec toutes les provisions dont elle disposait, tenir 3 mois ne leur poserait aucun problème. Et en prévision de l'hiver, il avait coupé assez de bois de chauffe pour qu'elle ne risque pas d'avoir froid. Ainsi, sa femme serait en sécurité. La jument tachetée apparut soudain à la sortie d'un lacet non loin de Richard. Nietzsche avait apparemment pris son temps et il était arrivé avant elle. Dès qu'elle l'aperçut, la sœur de l'obscurité riva ses magnifiques yeux bleus sur son prisonnier. Quand les sœurs de la lumière l'avaient capturé pour le conduire au palais des prophètes dans l'ancien monde, Richard s'était imaginé à tort que Callan voulait qu'il parte et qu'il porte un collier. N'ayant pas compris qu'elle entendait simplement lui sauver la vie, il s'était imaginé qu'elle en avait assez de lui. Pendant sa détention, la beauté de Nietzsche l'avait troublé. Devant elle, il perdait une partie de ses moyens, stupéfait qu'un être d'une telle perfection physique pût exister ailleurs qu'en rêve. Aujourd'hui, alors qu'elle le regardait, perché sur sa monture, il lui semblait qu'elle portait sa beauté avec une fade résignation. Son aura disparue, elle devenait une jolie femme, rien de plus, et il ne parvenait plus à comprendre pourquoi elle lui avait inspiré du désir à une époque. Depuis, il fallait le préciser, Richard avait découvert ce qu'était une vraie femme. Quand on connaissait l'amour et l'épanouissement, toutes les Nietzsche du monde perdaient leur attrait. En la regardant approcher, Richard s'aperçut non sans surprise qu'elle avait l'air triste. Elle semblait désolée de le voir là et en même temps soulagée, comme si cela lui retirait un poids des épaules. « Richard, dit-elle, tu t'es montré à la hauteur de mes espérances, mais tu es couvert de sueur, tu veux te reposer ?» La fausse gentillesse de sa geôlière fit monter le sang à la tête du sourcier. Détournant les yeux, il s'engagea sur la piste pour montrer le chemin à la jument. Avant de s'être calmé, mieux valait qu'il ne dise rien. Un peu plus loin, un étalon noir, une tache blanche sur le front, les attendait dans une minuscule clairière entourée de pins géants. « Ta monture, comme promis, » dit Nietzsche. « J'espère que ce cheval te plaira. J'ai choisi une bête grande et solide, adaptée à ta carrure. » Richard approcha de l'étalon, lui flatta l'encolure et fut satisfait de constater qu'il portait un mors articulé et pas un de ces ignobles mors à cuillère qui faisaient atrocement souffrir les chevaux. Au moins, contrairement à d'autres sœurs, Nietzsche ne se montrait pas cruel avec les animaux. Le reste de la sellerie était de bonne qualité et l'étalon semblait en bonne santé. Richard prit le temps nécessaire pour se présenter à sa nouvelle monture. L'étalon n'était pour rien dans ses malheurs. Et il ne devait pas, parce qu'il haïssait Nietzsche, se laisser aller à malmener un si bel animal. Sans demander à la sœur de l'obscurité comment il s'appelait, il le laissa renifler sa main, puis lui flatta de nouveau l'encolure et lui tapota l'épaule. Une façon silencieuse de faire connaissance qui donnait en général de bons résultats. Mais l'étalon noir racla nerveusement le sol avec ses sabots avant. À l'évidence, il n'était pas ravi de rencontrer Richard. Pour l'instant, choisir le chemin n'était pas difficile puisqu'il n'y avait qu'une piste, celle qui descendait du flanc de la montagne, s'éloignant inexorablement de la cabane et de Callan. Pour ne pas être obligé de voir Nietzsche, Richard avança en tête. Quand on prenait possession d'un cheval, il ne fallait surtout pas lui faire une mauvaise impression. Sinon, pour rectifier les choses, des jours d'effort devenaient nécessaires. Tenant sa monture par la bride, Richard lui laissa assez de mou pour qu'elle ne trouve pas désagréable de suivre un inconnu. Concentré sur le dressage de l'étalon, il cessa un moment de broyer du noir. Quand il sentit que le cheval se détendait, il monta en selle, prit la meilleure assiette possible et ne fit rien qui aurait pu être interprété comme une tentative de domination. Entre un homme et sa monture, le mot-clé était « coopération », tout bon cavalier le savait. Le chemin étant trop étroit pour chevaucher de front, la jument de Nietzsche, mal à l'aise de devoir suivre les talons, hennissait de mécontentement. Une petite victoire pour Richard, qui venait déjà de bouleverser l'ordre des choses. Consciente que son prisonnier était furieux, la sœur de l'obscurité ne tenta pas d'engager la conversation. Il venait avec elle, certes, mais pas de bon cœur et il ferait tout pour qu'elle ne l'oublie pas. Au crépuscule, Richard mit pied à terre près d'un ruisseau où les chevaux pourraient boire. Puis il déharnacha son cheval et jeta sa selle et son sac sur le sol. Nietzsche accepta sans broncher sa décision de camper à cet endroit. Sautant à terre, elle prit la couverture roulée accrochée derrière sa selle, la déroula et s'assit en tailleur. L'air maussade, elle sortit de sa sacoche une saucisse et un morceau de biscuit très dur qu'elle ramollit avec un peu d'eau. Après avoir avalé sa première bouchée, elle tendit la saucisse à Richard, qui fit mine de n'avoir rien vu. Supposant qu'il n'avait pas faim, la sœur de l'obscurité continua son repas en silence. Quand elle eut terminé, elle alla se laver les mains au ruisseau, puis disparut pendant quelques minutes derrière d'épaisses broussailles. Une fois de retour, elle s'enroula dans sa couverture, tourna le dos à son prisonnier et s'endormit comme une masse. Richard resta assis sur le sol froid, les bras croisés et le dos appuyé contre sa selle. Toute la nuit, il ne ferma pas l'œil et regarda Nietzsche dormir à la lumière de la lune filtrée par l'épaisse couverture nuageuse. Un seul sujet l'occupa jusqu'au lever du soleil. Comment neutraliser le plan de cette femme? En matière de magie, il n'était plus un débutant, et il avait non seulement senti, mais parfois contrôlé et déchaîné l'énorme pouvoir que lui conférait son don. Dans des situations très dangereuses où la magie menait le bal, il avait triomphé contre tous les pronostics, souvent sans savoir exactement ce qu'il faisait. Et Zed lui-même n'en avait pas cru ses oreilles à certaines occasions. La colère et le besoin étaient les deux focales de son pouvoir. Aujourd'hui, il ne manquait ni de l'une ni de l'autre. Mais comment s'y prendre, à supposer qu'il recourt à son don? Pour s'opposer à Nietzsche, il devait d'abord savoir comment elle avait procédé. La vie de Callan étant en jeu, il n'avait pas le droit à l'erreur. Cela dit, il ne doutait pas de trouver une solution, mais il lui faudrait du temps. Pour conserver sa santé mentale, il devrait se résigner à danser avec Nietzsche un long ballet cruel et subtil. À l'aube, sans dire un mot à la sœur de l'obscurité, il se chargea de seller les chevaux. En buvant un peu d'eau, Nietzsche le regarda vérifier que les sangles étaient bien serrées et ne pinçaient pas la peau des bêtes. Quand elle se fut désaltérée, elle sortit un morceau de pain de sa sacoche de sel et lui demanda s'il en voulait. Richard ne répondit pas. Après une nuit blanche, avec un temps glacial, il aurait dû être épuisé, mais la colère le tenait éveillé. Sous un ciel plombé, ils repartirent, s'enfoncèrent dans une forêt qui semblait ne pas avoir de fin, et se montrèrent assez raisonnables pour ne pas trop pousser les chevaux. Vers le soir, la neige commença à tomber. Doucement au début, puis de plus en plus fort, au point que le sol et les arbres en furent bientôt couverts. Comme si un rideau blanc venait de tomber sur le monde, la visibilité diminua et les deux cavaliers durent fréquemment s'essuyer le front et les yeux d'un revers de la main. Pour la première fois depuis qu'il voyageait avec Nietzsche, Richard se sentit un peu moins angoissé. En haute montagne, le lendemain, Callan et Kara se réveilleraient pour découvrir un tapis de neige de plusieurs pieds d'épaisseur. Jugeant trop dangereux de partir sur le champ, elle déciderait d'attendre, convaincue à tort que cette première neige ne tiendrait pas. Guettant une amélioration qui n'arriverait jamais, à ces altitudes les choses ne se passaient pas comme ça, elle serait surprise par la tempête qui ne tarderait pas à arriver. Là encore, elles hésiteraient à se lancer dans l'école et se résigneraient à attendre un peu plus. À ce rythme, elle serait coincée dans la prairie jusqu'au printemps, comme prévu. Et quand il aurait réglé le problème, Nietzsche, Richard retournerait chez lui pour y retrouver sa femme et sa meilleure amie. La veille, il avait laissé la sœur de l'obscurité dormir dehors, une vengeance idiote. Avec la neige, ce petit jeu devenait trop dangereux, surtout en pensant à ce qui arriverait à Callan si Nietzsche mourait de froid. Dès qu'il aperçut un pin compagnon, Richard fit quitter la piste à son étalon. En slalomant entre les arbres, il dut épousseter la neige qui tombait des branches des arbres et s'écrasait sur ses épaules ou sa tête. Nietzsche regarda autour d'elle, surprise, mais elle n'émit pas d'objection. Mettant pied à terre, elle regarda son prisonnier inspecter l'arbre, écarter une branche pour lui faire signe d'approcher. Docile, elle obéit et eut un sourire enfantin en découvrant l'abri douillet où il passerait la nuit. Richard ne rendit pas son sourire à la sœur de l'obscurité. Entrant dans le refuge naturel, il creusa le sol pour aménager une petite fosse à feu. Quand ce fut fait, il déposa au fond des brindilles et les recouvrit de petits bois. Dès que les flammes fournirent assez de lumière, Nietzsche fit du regard le tour de leur abri et ne cacha pas son émerveillement. Sous ses longues branches qui tombaient jusqu'au sol, le pin compagnon, dont la base du tronc était dépourvue de rameaux, offrait aux voyageurs un espace conique très comparable à celui dont on disposait sous une tente. Avec un bon feu, l'atmosphère devenait vite aussi agréable que celle d'une cabane bien isolée et chauffée. Nietzsche passa les mains sur les flammes avec un sourire satisfait. Elle ne se rengorgeait pas que son esclave lui ait trouvé un coin où dormir et qu'il ait fait du feu, mais ça lui était visiblement agréable. On eût dit qu'elle retrouvait la paix après avoir traversé une terrible épreuve. Désormais, semblait-il, elle n'espérait plus rien mais se contentait sincèrement de ce qu'elle avait. Richard n'avait plus mangé depuis la veille. Décidant qu'il avait assez manifesté sa désapprobation, il fit fondre de la neige dans une casserole et prépara un plat de riz et de haricots. Se laisser mourir de faim ne l'aiderait pas et ça n'apporterait rien à Callan. Quand le repas fut cuit, il coupa une tranche de sa miche de pain, déposa dessus du riz et des haricots et tendit le tout à Nietzsche. Comme si elle ne se formalisait pas qu'il ne lui adresse toujours pas la parole, elle le remercia chaleureusement. En échange, elle offrit à Richard une tranche de viande séchée. En la regardant tenir délicatement la nourriture entre ses doigts fins, il crut voir Kara ou Callan en train de nourrir un tamia. Toujours sans un mot, il saisit le morceau de viande et le mordit avec une violence très symbolique. Désireux de ne pas croiser le regard de Nietzsche, il mangea son pain, son riz et ses haricots en contemplant les flammes. À part le crépitement du feu, on n'entendait pas un bruit, sauf quand un amas de neige trop lourd pour une branche en glissait et s'écrasait sur le sol. L'hiver, un silence surnaturel régnait souvent dans la forêt. Quand il eut mangé, la fatigue rattrapa enfin Richard. Après avoir réalimenté le feu, il déroula sa couverture, la posa le plus loin possible de Nietzsche, s'étendit, pensa quelques instants à Callan en sécurité dans la cabane, et s'endormit comme un enfant. Au matin, ils se réveillèrent très tôt et repartirent après un rapide petit déjeuner. Dès qu'ils furent en selle, Nietzsche talonna sa jument et dépassa les talons noirs. À l'évidence, elle était résolue à chevaucher en tête. Un crachin glacial avait remplacé la neige, déjà transformée en boue grisâtre. Les basses terres n'étaient pas encore prêtes à rendre les armes contre l'hiver. En altitude, où était Callan, la mauvaise saison avait déjà remporté la victoire. Alors qu'il descendait une piste étroite à flanc de montagne, Richard tenta de s'intéresser au paysage pour oublier un peu sa triste situation. Cependant, il ne put s'empêcher de jeter de temps en temps un coup d'œil à Nietzsche. Avec le froid, elle avait passé un épais manteau sur sa robe noire. Dans cette tenue, avec son dos bien droit et sa crinière blonde, elle conservait une allure de souveraine. Dans ses vêtements de forestier d'une propreté douteuse et sans avoir pris la peine de se raser, Richard songea qu'il devait ressembler à un vagabond. La jument grise de Nietzsche, avec sa crinière de la même couleur et sa queue blanche, était le plus beau cheval qu'il ait jamais vu. Pourtant, il détestait cette bête, simplement parce qu'elle appartenait à la sœur de l'obscurité. L'après-midi, ils atteignirent une intersection où une seconde piste conduisait vers le sud. Sans hésiter, Nietzsche continua en direction de l'est. Avant la fin de la journée, il rencontrerait quelques autres chemins forestiers très rarement empruntés par des chasseurs ou des trappeurs. Dans ces montagnes, la terre était inexploitable. Même si on abattait les arbres, le sol rocheux se montrait rétif à toute utilisation. Plus près de Heartland, quelques prairies pouvaient subvenir aux besoins de petits troupeaux de moutons. Richard tenta de graver le paysage dans sa mémoire. Depuis toujours, il aimait ces forêts et nul ne pouvait dire quand il les reverrait. Certain que Nietzsche finirait par le lui révéler, il ne s'était pas abaissé à lui demander où ils allaient. Étant donné le peu de choix qui s'offrait à eux, qu'elle ait opté pour l'Est ne signifiait pas grand-chose jusque-là. En chevauchant, Richard repensa à son épée et à la manière dont il l'avait offerte à Callan. Sur le coup, cela lui avait paru la meilleure chose à faire. Il détestait avoir été si théâtral, mais c'était tout ce qu'il avait à sa disposition pour protéger sa femme à distance. Si tout se passait bien, elle n'aurait jamais besoin de dégainer la lame, sinon il avait investi d'une bonne mesure de sa propre colère. Un couteau pendait à sa ceinture. Pourtant, sans l'épée de vérité, il se sentait comme nu. Bien qu'il la détestât à cause des pulsions obscures qu'elle faisait jaillir en lui, son arme lui manquait. En la lui remettant, Zed avait dit qu'elle n'était qu'un outil, des propos qu'il se remémorait souvent pour relativiser les choses. En fait, il y avait plus que cela. L'épée était un miroir où se reflétait l'âme de son propriétaire. Capable de détruire tout ennemi qui se dressait devant le sourcier, elle n'aurait pas pu égratigner quelqu'un qu'il tenait pour un ami. Tout le paradoxe de sa magie était là. Le sourcier définissait le bien et le mal, et seul ce qu'il croyait importait. Richard était un authentique sourcier de vérité, légitime héritier de l'arme créée 3000 ans plus tôt par des sorciers. L'épée aurait dû être à son ceinturon car il avait pour mission de la protéger. Mais ces derniers temps, il ne se sortait plus très bien de ses missions. En fin d'après-midi, Nietzsche quitta la piste qu'il suivait et s'engagea sur une autre qui menait au sud-est. Richard connaissait bien ce chemin. Le lendemain, il traverserait un village, puis la piste deviendrait une route étroite mais beaucoup plus praticable. Puisqu'elle avait choisi cet embranchement, Nietzsche devait également le savoir. Au crépuscule, ils longèrent les berges d'un grand lac. Quelques mouettes volaient paresseusement au-dessus des eaux martelées par la pluie. Dans cette région, ces oiseaux n'abondaient pas, mais il arrivait qu'on en rencontre. Dans l'ancien monde, il avait vu beaucoup d'oiseaux marins, et l'océan l'avait fasciné. Sur la berge opposée, Richard distingua deux pêcheurs penchés sur leur ligne. De ce côté du lac, les gens d'un petit hameau venaient souvent tenter leur chance avec les truites. À force, ils avaient ouvert dans la forêt un chemin dont ils se confiaient le secret de génération en génération. Les pêcheurs, assis sur un gros rocher plat, saluèrent les deux voyageurs à grand renfort de gesticulations. Dans le coin, apercevoir des inconnus n'était pas fréquent. De loin, les hommes avaient dû prendre Richard et Nietzsche pour des trappeurs. La sœur de l'obscurité leur adressa de grands signes de la main, comme si elle entendait leur souhaiter que ça morde bien aujourd'hui. Très vite, ils négocièrent une courbe abrupte et n'aperçurent plus les villageois. Un peu plus tard, ils s'éloignèrent du lac, s'enfoncèrent de nouveau dans la forêt et descendirent une piste en pente douce. Pour se protéger de la pluie, Nietzsche avait relevé la capuche de son manteau. Avec la nuit qui tombait, les deux cavaliers ressemblaient de plus en plus à des fantômes. Toujours déterminé à ce qu'il n'arrive rien à Callan, Richard décida qu'il ne pouvait plus se murer dans un mutisme stérile. « Quand nous rencontrerons des gens ? » demanda-t-il. « Que devrais-je leur dire ? Tu n'aimerais pas que je te présente comme une sœur de l'obscurité qui enlève des innocents, je suppose. Mais tu veux peut-être que je fasse semblant d'être muet ?»«
Si quelqu'un t'interroge, réponds que tu es mon mari. J'attends de toi que tu joues cette comédie chaque fois que ce sera nécessaire. À partir de maintenant, nous sommes mari et femme. »
Richard serra les poings sur les rênes de sa monture. « J'ai déjà une épouse et ce n'est pas toi. Ne compte pas sur moi pour mentir à ce sujet. » Nietzsche ne réagit pas à cette explosion de colère. Très sereine, elle jeta un coup d'œil au ciel. En plaine, il faisait encore trop chaud pour qu'il neige. En altitude, ce devait être très différent, et Callan, qu'elle le veuille ou non, serait obligée de passer l'hiver au chaud et en sécurité.
« Tu crois pouvoir trouver un autre pain compagnon ?» demanda Nietzsche. « J'aimerais beaucoup dormir de nouveau au sec. »
Par les trouées entre les arbres, Richard étudia les collines qui s'étendaient devant eux.
« Oui, je crois que j'en dénicherai un. »«
Parfait. D'autant plus que nous allons avoir une petite conversation ce soir. »